Riviera Ferraille.
Le meurtre de Jean Bénet Ramsay, le sac aux 54 mains, l'expérience de Philadelphie, la danse macabre de Strasbourg, ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles, et nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du BDM. Le 22e, si je dis pas de bêtises, le 21e, le précédent, c'était sur les animaux fantastiques et vous avez été nombreux à nous faire différents retours sur les 4 animaux, les 4 bêtes dont nous avons parlé. Et notamment, j'ai pu constater sur la bête du Gévaudan, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que ce loup-cervier. Ah, mais en fait, c'était pas un lynx, ça, ceci, à cela. En fait, le loup-cervier avec un C est en effet un animal qui tire son nom du fait qu'il attaque les cerfs. C'est la même étymologie que le cerf. Il ne s'agit pas de cet animal-là, il s'agit du loup-cervier avec un S. Et là, ça change totalement, puisque les occurrences sont beaucoup plus rares sur Internet, vous pourrez le remarquer. Mais non, il s'agit bien du loup-cervier avec un S et non avec un C. Le loup-cervier, donc, qui était potentiellement une explication probable pour la bête du Gévaudan.
Et pas la seule, hein, parce qu'on rappelle que la bête du Gévaudan reste un mystère encore en suspens, comme et on l'a dit la dernière fois.
Nous n'avons pas classé l'affaire.
Ce soir, on va parler de 4 nouveaux mystères, dont un que vous avez été très très nombreuses et nombreuses à nous demander. Ça doit faire depuis même le début de la saison 1 qu'on nous demande de faire ce mystère, alors j'ai décidé de le faire cette fois. On va retourner à Strasbourg. Vous vous souvenez que dans la saison 1, on avait parlé des fantômes qui hantent les rues de Strasbourg. Bien, cette fois, on va s'intéresser à un autre phénomène qui s'est déroulé il y a bien longtemps et qui vous a fasciné, je parle bien sûr de la manie dansante de Strasbourg. Mais commençons tout de suite avec un premier dossier.
Le meurtre de Jean Bénet Ramsay. Le 26 décembre 1996, à 5h52 du matin, Patsy Ramsay appelle le 911 avec une voix paniquée. Elle vient de retrouver une lettre manuscrite lui annonçant que sa fille, Jean Bénet Ramsay, a été kidnappé et qu'une rançon est demandée en échange de sa vie. Plus tard dans la même journée, la petite fille sera retrouvée morte dans la maison familiale. Aujourd'hui encore, l'auteur n'a toujours pas été identifié. Nous sommes à Boulder, Colorado, en pleine période de Noël. La famille Ramsay a tout d'une famille américaine blanche stéréotypée. John Bennett et Patsy Ramsay ont 2 enfants, Burke et John Bennett, respectivement 9 ans et 6 ans. La petite fille est mini-miss, elle participe depuis plusieurs années déjà à des concours de beauté. John Bennett a déjà eu 3 enfants d'un précédent mariage et a fait fortune dans l'informatique, tandis que la mère est une ancienne miss de l'ouest de Virginie. Nous sommes le 26 décembre 1996, il est 5h50, Patsy se lève, descend dans la cuisine et retrouve une note posée sur les escaliers. La lettre manuscrite indique que Jean Bénet a été kidnappé et qu'une rançon est demandée. 2 minutes plus tard, Patsy appelle le 911 en panique. Elle tente d'expliquer que sa fille a été kidnappée. La note est signée SBTC Victory, des initiales qui, encore aujourd'hui, restent un mystère. Ce qui n'est pas un mystère en revanche, c'est la provenance du papier et du stylo. Il s'agit d'objets qui étaient dans la maison et qui appartiennent aux Ramsay. Le premier officier arrive sur place, à la maison des Ramsay, à 5h59. Il faudra attendre plusieurs heures pour que toute une brigade arrive sur place. Ils interrogent évidemment les parents, mais en tant que victimes et non en tant que suspects potentiels. La matinée avance et Linda, une des officières, dit à John Bennett qu'elle va fouiller la maison en commençant par le dernier étage pour finir au sous-sol. La police n'avait jusque-là pas jugé utile de fouiller la maison, dans la mesure où Patsy avait appelé pour un enlèvement, et Linda fait presque cela pour occuper les parents, extrêmement stressés par la situation. Il est à ce moment-là 13h, soit moins de 8h après la découverte de la lettre. Après avoir entendu les mots de Linda, John Ramsay agrippe le bras de l'officier Fleet White et se dirige immédiatement vers le sous-sol de la maison, comme pour commencer les recherches. John ouvre la porte de la buanderie, une petite pièce sans fenêtre, s'avance et allume la lumière. Il est 13h05. John Ramsay découvre le corps sans vie de sa fille allongée sous un linge. Elle a du scotch sur la bouche et de la corde autour du cou. Son premier réflexe est assez étrange. Il va immédiatement prendre le corps de sa fille pour le remonter à l'étage et la pose sur un tapis vers le salon. Autrement dit, la scène de crime est immédiatement contaminée et cela ne va rendre l'enquête que plus compliquée. À 13h20, Ron Walker, le chef de la police locale, arrive sur place. Il parcourt la maison et découvre dans une pièce du rez-de-chaussée une fenêtre cassée et une valise posée à côté comme pour prendre appui pour passer par-dessus. Voilà pour ce qui est des faits. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur quelques éléments fondamentaux de cette affaire. La lettre laissée sur les escaliers, par exemple, est assez étrange. On peut y lire plusieurs choses. Les ravisseurs prétendent servir une cause étrangère et disent, je cite, « respecter le business de John Ramsay, mais pas le pays que ce business sert, à savoir les États-Unis ». La rançon demandée est précise. 118 000 $. Chiffre étonnamment proche du bonus que recevra John cette année-là de la part de son entreprise. Certains experts ont pointé du doigt que des passages, notamment au long de la deuxième page, rappelaient des lignes de dialogue de plusieurs films dans lesquels un kidnapping est mis en scène, notamment Dirty Harry, sorti en 1971, ou encore Speed, sorti en 1994. Sur la qualité d'écriture de la lettre, en dépit d'un mot ou deux mal orthographiés, la lettre est écrite dans un anglais très correct selon un linguiste qui s'est penché sur l'affaire. Ces quelques fautes pourraient même avoir été faites volontairement pour appuyer ce qui est avancé dans le premier paragraphe, à savoir qu'il s'agit d'une faction étrangère. Mais il s'agirait a priori bien d'un auteur dont l'anglais est la langue maternelle, âgé de 30 ans ou plus. La lettre est assez longue, elle fait 3 pleines pages, et dans le meilleur des cas, il aurait fallu au moins 21 minutes pour l'écrire, ce qui est assez étrange quand on sait que le stylo et le papier proviennent de la maison. Le ou les meurtriers auraient pris le risque d'être découverts pendant tout ce temps-là. Pour terminer sur cette lettre, la quasi-intégralité des personnes qui l'ont étudiée la trouve tout à fait inhabituelle, notamment en ce qui concerne la posture énonciative et les détails parfois étranges dévoilés dedans. Le 13 août 1997, le rapport d'autopsie de la jeune fille est révélé au public. Jean Benet a reçu un coup sur la tête, sur le côté supérieur droit du crâne. Un coup suffisamment fort pour lui fracturer net sans pour autant entraîner la mort. L'objet utilisé a laissé une marque qui correspond exactement à la largeur d'une lampe torche retrouvée chez les Ramsay. Lampe torche qui était assez solide pour provoquer cette fracture du crâne. Aucune trace ADN ne sera cependant retrouvée sur la lampe, ce qui s'explique par le fait que la peau ne soit pas déchirée sous l'impact, il n'y a donc pas eu une seule goutte de sang. Des marques de strangulation ont également été retrouvées, mais celles-ci ont été faites post-mortem et ne sont probablement pas la cause du décès. Quoique les versions divergent sur ce qui a causé la mort de la fillette, le coup sur la tête et l'étranglement ont en tout cas été avérés. Aussi, des traces d'ADN étrangers ont été retrouvées sur les sous-vêtements et les vêtements de Jean Benet, ce qui va orienter l'enquête vers la piste de l'agression sexuelle, d'autant que les deux traces ADN sont les mêmes, ou appartiennent à la même personne, à la fois donc sur les vêtements et les sous-vêtements. Ont été retrouvées aussi des marques de taser qui auraient pu servir à la paralyser au moment du probable kidnapping. Bref, vous l'aurez compris, je ne m'attarde pas sur les détails, la mort de Jean Benet a été extrêmement brutale et c'est ce point en particulier qui va choquer les enquêteurs qui travaillent sur cette enquête. les Ramsay vont faire leur première apparition publique le 1er janvier 1997. Ils vont donner une interview à CNN avant même d'être entendus officiellement par la police. Ils n'avaient même pas prévenu la police qu'ils allaient donner une interview. Cette rapidité, disons, à aller au contact des médias et à se montrer ainsi si rapidement, va être pendant un temps un facteur qui va orienter les soupçons vers la piste toujours présente du meurtre familial.
Oui, puis ça entre en cohérence avec ce que tu disais tout à l'heure, où le père prend le corps immédiatement et souille immédiatement la scène de crime.
C'est
donc,
ça.
C'est-à-dire qu'il avait quelque chose à cacher, le soupçon se crée à ce moment-là.
Ben, quelque chose à cacher ou en tout cas envie de complexifier un petit peu l'affaire. En août 1996, John Ramsay, le père, était rentré chez lui lui-même par effraction parce qu'il s'était retrouvé coincé dehors sans les clés et était passé par cette même fenêtre, celle qui a été cassée, le soir de la mort de JonBenet. Autre détail troublant lié à cette fenêtre, une vieille toile d'araignée a été filmée lors de l'enquête quelques jours après le meurtre. La toile située dans un coin inférieur de la fenêtre aurait probablement été emportée par le passage d'un adulte à ce moment-là. Or, elle était présente. Ce qui amène à penser que la fenêtre cassée n'était peut-être qu'une mise en scène. En mars 1997, cependant, Lou Smith, un enquêteur engagé par le procureur de l'époque, donc Alex Hunter, pour enquêter sur l'affaire Ramsay, va appuyer la théorie d'une personne extérieure qui se serait introduite dans la maison dans un rapport rendu en 1998. Il écarte la responsabilité des parents dans l'affaire, sans pour autant lever toutes les zones d'ombre, notamment cette affaire de toile d'araignée. Reste maintenant qu'il y a des suspects dans cette enquête. Bill McReynolds, un homme déguisé en Père Noël qui se balade dans le quartier des Ramsay, fera partie des suspects pendant un temps. Il a été aperçu devant la maison des Ramsay 2 jours avant le meurtre de JonBenet. Il a lui-même vécu le kidnapping de sa fille en 1974 et a fait quelques déclarations un peu étranges sur la manière dont il se sentait proche de la petite fille. Sa femme, donc à cet homme, à Bill McReynolds, a écrit une pièce sur l'histoire d'une petite fille battue et tuée dans un sous-sol, mais ce sont sans doute des coïncidences puisqu'aucune preuve assez forte ne viendra garantir sa culpabilité. En 2000, Gary Oliva, qui vivait dans une maison proche des Ramsay, déjà condamné pour agression sexuelle, est arrêté en possession de photos représentant de la pornographie infantile, en plus de photos rendues publiques de JonBenet, mais ne sera pas pour autant condamné pour son meurtre, là encore, faute de preuves, puisque les photos ont été rendues publiques, toute personne aurait pu se les procurer. En 2004, l'échantillon ADN retrouvé sur les vêtements sera comparé avec 1,5 million d'échantillons présents dans les bases de données à disposition et rien n'en ressortira. En 2006, John Mark Carr est arrêté alors qu'il est en Thaïlande pour échapper à des charges qui pèsent contre lui de possession, encore une fois, de pornographie infantile. Il est accusé du meurtre de la petite fille. C'est un père divorcé et professeur des écoles qui va confesser le meurtre par mail à un enseignant en journalisme vivant aux États-Unis avec qui il a correspondu pendant 4 ans. Dans ses mails, il va utiliser des mots similaires à la lettre manuscrite laissée chez les Ramsay. Il va même donner l'arme du crime et devinez quoi ? Il dit l'avoir tué avec une lampe torche.
Est-ce que cet élément-là, à ce moment-là,
ouais,
pouvait être connu de gens en dehors de la police et de la famille?
J'en ai honnêtement aucune idée. Dans les coupures de presse qui ont été écrites et dans les hypothèses qui ont été écrites, ça a peut-être été le cas. Toujours est-il que ça reste quand même assez perturbant parce que ça veut dire qu'il se documente aussi sur l'affaire, s'il connaît...
Mais ça, malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent. Ça me fait penser à l'affaire dont tu parlais sur D.B. Cooper, où les gens se font passer pour D.B. Cooper, donne des détails précis, mais qui en fait étaient sur des documents que peu de gens ont consultés en détail, et donc du coup font comme s'ils l'étaient parce qu'ils connaissent ce genre d'informations. Donc voilà, il y a des gens partout qui veulent se rattacher à des grandes affaires comme ça, parce que ce meurtre-là a fait grand bruit aux États-Unis, évidemment.
Et il continue.
Donc ça m'étonnerait pas que quelqu'un veuille dire c'est moi qui l'ai tué, alors qu'en fait non.
Cependant, l'ADN retrouvé ne correspondra pas avec celui de John Mark Carr. Il faut ajouter à cela que certaines de ses déclarations par la suite, quand il a été entendu par les policiers, ne correspondaient pas avec les preuves trouvées sur place et qu'il n'était probablement même pas dans l'état du Colorado le soir du meurtre. Le 9 juillet 2008, la famille Ramsey est complètement rayée de la liste des suspects grâce à un test ADN. Le procureur, donc Mary Lacy, qui remplace Alex Hunter, s'excusera publiquement auprès de la famille qui en ait été autrement pendant des années. John Mark Carr est toujours sous le coup d'une investigation. Il aurait avoué ne pas avoir agi seul, ce qui laisse des pistes potentielles. Cependant, et je terminerai là-dessus, c'est malheureusement le plot twist de cette histoire. Le docteur Henry Lee, qui avait notamment travaillé sur le cas O.J. Simpson, va démontrer que trouver des traces ADN sur des vêtements et sous-vêtements n'est pas forcément une information en soi. Dans un documentaire à propos de l'affaire, il va tester des vêtements encore sous vide et découvrir des traces ADN de personnes qui ne sont pas dans la pièce. Tout simplement parce que les vêtements sont manipulés par différentes personnes avant d'être emballés et ne sont pas relavés après avoir été touchés. Comme le dira le docteur Henry lui-même, il n'est sans doute même pas possible de se baser sur l'ADN pour résoudre cette affaire, ce qui malheureusement réouvre beaucoup de possibilités quant aux personnes préalablement disculpées. L'affaire n'a pas été résolue à ce jour, et le dernier documentaire qui a été produit en 2016 par la chaîne la CBS, si je ne dis pas de bêtises, émet l'hypothèse que potentiellement il s'agirait de la mère, Patsy, et de Burke, le frère, qui auraient pu être les auteurs du meurtre. Malheureusement, il s'agit d'hypothèses et il n'y a rien aujourd'hui qui permet d'affirmer quoi que ce soit, en fait.
Donc une affaire non classée, avec un degré de mystère extrêmement élevé.
Ouais, c'est ça. C'est un degré de mystère extrêmement élevé. Des suspects potentiels, il y en a pas mal. Des pistes inexplorées, il y en a aussi plusieurs. Et c'est finalement trop dur pour dire quoi que ce soit. Et on est 22 ans, même plus que ça, après l'affaire. Donc voilà. Affaire classée ou affaire pas classée? Non.
Ah bah, pas du tout
classée. Affaire pas du tout classée. Bon, on passe à la suivante?
Allez, dossier suivant. Le sac aux 54 mains. Sur les rives glacées d'un fleuve sibérien, un pêcheur a fait une découverte sinistre. Une main humaine tranchée. Quelques mètres plus loin se trouvait un sac, et à l'intérieur, il y en avait 53 autres. Les grandes étendues de neige de la Russie sont une terre de mystère, on l'avait déjà vu avec l'affaire Dyatlov, dont tu avais parlé, Charles, dans notre premier numéro, qui est sans doute la plus grande énigme d'ailleurs dont on ait parlé dans cette émission. Et bien cette fois, je vous propose de retourner faire un tour dans le froid, mais un peu plus à l'est. Beaucoup plus à l'est même, puisque cette affaire nous transporte près du petit village de Vladimirovka, sur les rives du fleuve Amour. Il fait froid, le vent sibérien fouette le visage des rares personnes qui osent sortir affronter les rafales glacées. En ce mois de mars 2018, un pêcheur russe se rendait pourtant, comme chaque jour, sur un des bras du fleuve pour attraper quelques poissons. Mais cette fois, il a fait une découverte dont il aura sans doute beaucoup de mal à se remettre. Sur la neige immaculée se trouvait une petite forme sombre. En s'approchant, le pauvre pêcheur a eu l'horreur de réaliser qu'il s'agissait d'une main humaine. La police de Khabarovsk, la plus grande ville des environs, s'est précipitée sur les lieux. Et les enquêteurs ont vite trouvé, tout près de la main, un sac qui en contenait 53 autres. Au total, il y avait donc 27 paires de mains, toutes parfaitement tranchées au niveau du poignet. Un témoin de la scène a confié au Siberian Times qu'il avait été choqué par ce spectacle écœurant. Ça peut évidemment se comprendre. Siberian Times a posté une vidéo des 54 mains coupées, bien alignées dans la neige. Très honnêtement, ça donne des frissons dans le dos.
Ils n'ont pas essayé de les mettre en rapport avec les 14 pieds canadiens.
Ça aurait été rigolo de voir si ça concordait. Malheureusement non, car tu vas voir que les développements sur cette affaire sont très très différents de l'affaire des pieds canadiens. Alors toute la question en fait c'est de savoir comment ces 54 mains se sont retrouvées là au fin fond de la Sibérie, et au départ il faut bien avouer que la police n'avait pas vraiment de piste. Chez les habitants du coin, une théorie a vite trouvé ses adeptes, ces 27 paires de mains tranchées pourraient selon eux appartenir à des voleurs. Et oui, trancher les mains des voleurs est un châtiment atroce, archaïque, mais qui est encore pratiqué dans certains pays, et dans des zones reculées de pays comme la Russie. Si l'idée a convaincu beaucoup d'observateurs, elle n'a pas été la seule à apparaître sur le net, loin de là. Comme souvent, quand il y a une affaire aussi mystérieuse que celle-ci qui est médiatisée, les théories les plus folles commencent à apparaître. On a évidemment entendu parler d'un serial killer qui aurait gardé les mains de ses victimes comme des trophées. C'est une hypothèse qui a été évoquée, mais bon, elle ne se basait sur pas grand-chose de concret. C'était juste une idée comme ça. L'hypothèse d'un meurtre de masse rituel qui aurait été commis par des illuminés ou une secte a aussi été plutôt séduisante pour certains. Mais la théorie la plus populaire concerne la pègre chinoise. Et pour comprendre ce que viendraient faire les Chinois dans cette affaire, il faut que je vous parle un petit peu de Khabarovsk. En hiver, Khabarovsk, c'est loin d'être la ville la plus accueillante du monde. Elle est vraiment aux confins de la Sibérie, à l'extrémité est de la Russie. Mais l'été, c'est une grande ville de 616 000 habitants qui devient une véritable destination touristique, qui est prisée des Russes, mais aussi et surtout des Chinois. Car Khabarovsk est à seulement une trentaine de kilomètres de la frontière sino-russe et attire énormément de visiteurs l'été. Elle reçoit plus d'un million de touristes chinois par an, et en conséquence, il y a beaucoup d'argent qui y transite. Depuis quelques dizaines d'années, les investissements japonais, coréens et évidemment chinois ne font qu'augmenter dans la ville, donc forcément un tel pôle économique ça ne peut qu'attirer les triades chinoises. Et c'est pour cette raison que sur le net, quelques enquêteurs du dimanche, on les voit souvent sur les forums, ont relié ce sac aux 54 mains tranchées à un potentiel règlement de compte au sein de la pègre. Alors pour en arriver à cette conclusion, il faut assez mal connaître les méthodes des triades, puisque le tranchage de mains n'est absolument pas quelque chose de courant.
Toi tu les connais très chinois. Bien du coup. Ou pas.
Pardon ?
Tu les connais bien, toi, du coup, ou pas ?
Ah bah écoute, je me suis un petit peu renseigné, et il s'avère que ce n'est pas une méthode très répandue, voilà, dans D'accord. les triades chinoises. Je pense que ceux qui ont pensé ça ont peut-être fait une association d'idées avec les yakuza japonais qui se tranchent un doigt, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, bon, la solution de l'énigme qui entoure ce sac à main, pour ne pas faire un très mauvais jeu de mots, n'est pas à chercher de ce côté-là.
Oh là là, ça a mis deux secondes avant de m'arriver.
Eh ben écoute, elle était écrite et j'en suis plutôt content. J'ai failli appeler cette histoire comme ça, le sac à main sibérien.
Ouais, c'est très bien.
Bon allez, revenons à la scène de crime de Vladimirovska. Près de la première main, donc, et du sac avec les 54 autres, avec les 53 autres, les policiers avaient découvert d'autres éléments. Le Siberian Times, donc, qui est vraiment le premier journal à avoir rapporté l'affaire à l'international, avait précisé qu'il y avait aussi, je cite, des bandages médicaux et des surchaussures jetables, comme celles que l'on utilise dans les hôpitaux. Alors le sac et ses objets viennent sans doute du même endroit, hein. La probabilité pour qu'ils se retrouvent tous les deux dans la même zone très éloignée est quand même assez mince, enfin ce serait logique qu'ils viennent du même endroit, et ça explique pourquoi les mains ont été aussi nettement tranchées. Mais ça écarte surtout la piste criminelle, parce que l'agence russe qui dirige l'enquête a publié un communiqué quelques jours après la découverte pour préciser que les mains n'étaient, je cite, pas liées à des affaires criminelles. Alors dans un premier temps, les médias locaux ont imaginé que ça pouvait être des restes de cadavres qui auraient été utilisés dans des exercices de dissection par des étudiants en médecine. Mais le site Live Science a pu obtenir, et surtout traduire, parce que le russe c'est pas facile, un communiqué de la commission d'enquête russe qui donne une hypothèse encore plus probable. Alors tiens-toi bien, les 54 mains pourraient, selon les premiers éléments de l'enquête, venir d'un laboratoire médico-légal de Khabarovsk, donc la grande ville d'à côté. Et le laboratoire ne se serait pas débarrassé dans les règles de ces restes humains et les aurait simplement jetés dans la nature. Ce qui nous amène à une autre question. Que faisait ce labo avec 27 paires de mains ?
Bah, je sais pas quelle était leur spécialité. Ils savaient sans doute, je sais pas, ils étaient, c'était... Ou alors, non, c'est peut-être un... autre hypothèse, un salon pour s'entraîner à la manucure.
Alors, pas tout à fait. Comme tu vas le voir, le communiqué, donc je reviens au communiqué de la commission d'enquête, a donné un élément de réponse quand même. Il pourrait s'agir, je cite, d'une procédure peu connue en Russie, qui consiste à couper les mains de cadavres inconnus. L'idée, ce serait d'avoir ces mains à disposition pour ensuite utiliser leurs empreintes digitales après l'enterrement et essayer de découvrir qui c'était. Pour les enquêteurs, ces mains auraient donc pu faire partie d'un stock d'un laboratoire médical légal qui s'en serait débarrassé de manière, je cite, inappropriée pour des raisons peu claires. c'est le rapport qui dit ça. Donc bon, vous l'aurez compris, le sac aux 54 mains en Sibérie est loin d'avoir livré tous ses secrets, parce que même l'explication officielle peut être remise en cause. En fait, scientifiquement, conserver des mains entières n'a pas vraiment de sens. Il suffit de relever les empreintes digitales, ce qui est quand même plus simple. D'ailleurs, cette technique a été un échec total, puisque sur les 54 mains, une seule avait encore des empreintes digitales analysables.
Ah oui, mais peut-être parce qu'elles avaient été jetées, du coup.
Alors, peut-être parce qu'elles sont restées dans le froid pendant un petit moment et qu'elles sont sans doute passées par l'eau aussi, hein, puisqu'on les a retrouvées près du fleuve Amour, je le rappelle. Et surtout, ben, cette seule main qui avait des empreintes digitales analysables, on n'a pas pu retrouver à qui ça appartenait, ce qui ajoute un petit peu à cette idée que ça pourrait être effectivement des cadavres inconnus. Le stock était là, ils ne savaient pas quoi en faire. Et plutôt que de, je sais pas, moi, les brûler, comme ça, ce serait même une chose plutôt sensée, les incinérer, ils s'en sont débarrassés en les jetant dans la nature. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs cette affaire à une histoire que tu avais racontée dans le bureau des mystères.
Ouais, je me souviens.
Du départ en vacances.
Ouais, c'est ça. C'était sur une aire d'autoroute dans le sud de la France où une entreprise qui s'occupait du nettoyage d'une scène de crime avait laissé des bouts de corps et un matelas ensanglanté sur l'aire d'autoroute parce qu'ils avaient un peu la flemme de s'en débarrasser.
Ce qui est quand même fou en termes de responsabilité d'oser faire ça.
C'est assez compliqué.
Là, c'est la même chose, hein. Si c'est bien ça qui s'est passé en Russie, ce laboratoire médical légal qui se débarrasse comme ça des mains, c'est quand même assez fou. Donc pour moi, l'affaire classée, et pour la Russie aussi, hein, évidemment, la Russie, pour eux, les responsables du labo, ils sont en train de chercher lequel c'est exactement, vont devoir s'expliquer, et ensuite ça s'arrêtera là. Mais il reste quand même quelques zones d'ombre, même si j'ai quand même envie de classer l'affaire. Bon, on ne sait toujours pas à qui les mains appartiennent, on ne le saura sans doute jamais. Ni pourquoi ce labo en a eu autant. J'imagine que c'est une accumulation au fil des années, ce serait quand même logique. Et pourquoi cette mauvaise technique compliquée pour rien a été utilisée, ça reste aussi un mystère pour moi. Malgré tout ça, je pense que l'affaire est quand même relativement classée.
Je suis assez d'accord. Il y a un petit niveau de mystère encore, mais on ne doute pas qu'il sera résolu et je pense qu'on peut laisser faire les enquêteurs et classer l'affaire.
Allez, on passe à une autre affaire ?
Allez. L'expérience de Philadelphie. Sur la côte est des États-Unis, à Philadelphie en 1943, l'armée américaine tente des expériences visant à rendre invisibles des radars ses navires de guerre et ses avions. Un soir d'octobre, une opération dans le cadre du Rainbow Project va mal tourner, entraînant la téléportation d'un navire et la mort de plusieurs membres d'équipage. Une affaire désormais connue sous le nom d'expérience de Philadelphie que la CIA fera tout pour dissimuler. Du moins, c'est ce que certains prétendent.
Attends, je veux dire que c'est enfin le grand retour de la CIA dans cette émission.
Exactement, c'est le grand retour, je reviens à mes fondamentaux pour cette histoire.
Félicitations.
j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette histoire pour vous la livrer. Puisque donc je vais vous parler de théories du complot et d'expériences soi-disant menées par le gouvernement américain. Je vous avais déjà parlé du drame de Pont-Saint-Esprit, du projet MKUltra, qui, dans les deux cas, a d'ailleurs une part de vérité. Hein. Ici, on parle d'une affaire qui date d'octobre 1943, donc une date antérieure à la fois aux événements de Pont-Saint-Esprit, mais aussi au projet MKUltra. C'est un peu le proto-événement complotiste par excellence. Le nom, tout d'abord, pourquoi Rainbow ? Tout simplement parce que c'est un nom de code utilisé pendant les années 30 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis en raison du code couleur qu'ils attribuaient à chacun de leurs plans de guerre. Ce projet Rainbow, ou Philadelphia Experiment, c'est tout un amas de rumeurs autour d'un test technologique du gouvernement américain pour tenter de rendre un gigantesque navire de guerre, l'USS Eldridge en l'occurrence, indétectable sur les radars. Cette histoire de l'expérience de Philadelphie vient donc avant tout de rumeurs, comme je disais, mais ça vient surtout de trois personnes sur lesquelles je reviendrai plus tard. Il s'agit de Maurice Ketchum Jessup, Carlos Miguel Allende et beaucoup plus tard, dans les années 80, on le verra, Al Bielek. Celui-ci prétendra d'ailleurs également à côté avoir rencontré Mark Hamill, l'interprète donc de Luke Skywalker, à Hawaï en 1956, une version adulte de Mark Hamill qui avait pourtant alors 4 ans et qui n'avait jamais voyagé à Hawaï. Ça permet tout de même de placer le personnage.
Des personnes dignes de confiance.
Exactement.
Des personnes qui pourraient faire des vidéos YouTube qui s'appellent « On a essayé de devenir invisible, ça tourne mal ».
Oui, c'est vrai, s'il avait vécu aujourd'hui, c'est typiquement ce qu'il aurait fait. Le projet Rainbow aurait démarré en 1931 avec, tenez-vous bien, Einstein lui-même, mais ce dernier serait parti simplement un an plus tard pour des raisons personnelles. C'est alors Nikola Tesla, connu pour ses recherches sur le transport de l'électricité, qui aurait été chargé du projet jusqu'à sa mort en janvier 1943,
de même que le docteur John von Neumann, qui menait des recherches en mathématiques appliquées et qui est aussi le scientifique qui inspira Stanley Kubrick pour le rôle du docteur Folamour. Al Bielek, dont je vous parlais tout à l'heure, rejoindra l'équipe en 1939 pour, dit-on, ses capacités psychiques et ses aptitudes métaphysiques, du moins c'est ce qu'il prétendra plus tard. En 1940, un premier test d'invisibilité est réalisé sur un navire sans équipage et c'est un franc succès. Le bateau disparaît complètement avant de réapparaître quelques secondes plus tard.
Je voulais juste préciser, c'est un franc succès selon la
selon
théorie...
les complotistes, exactement.
Voilà, on est bien d'accord là-dessus.
Oui, oui, exactement. Cependant, Tesla émet des doutes quant à la réussite du même test avec un équipage. Hein. Selon lui, de graves problèmes pourraient survenir à cause de ce qu'on appelle des bobines de Gauss. Ce sont des canons qui envoient des radiations électromagnétiques qui pourraient affecter l'état de santé de l'équipage. Le 28 octobre 1943, tout est prêt. Les canons de Gauss calibrés par Tesla sont en place, ce dernier n'est plus là, mais la machine est lancée sous la supervision de Neumann. Cependant, l'expérience ne va pas complètement réussir puisque le bateau ne va pas vraiment disparaître mais se retrouver comme caché par un épais brouillard vert. Les ingénieurs recalibrent les canons électromagnétiques braqués sur le navire et lancent le second test. C'est alors que le bateau disparaît, selon les témoignages, dans un grand éclair bleu et serait réapparu des centaines de kilomètres plus loin au-dessus de la base militaire de Norfolk en Virginie, donc toujours sur la côte est des États-Unis, à plus d'une heure en avion. Après quelques minutes passées à flotter au-dessus de Norfolk, le navire retourne instantanément de là où il venait, à Philadelphie. Malheureusement, au retour du bateau, pas mal de choses avaient changé à son bord.
Tu m'étonnes, ils ont téléporté.
Ce qui n'était pas prévu. La téléportation n'était pas au programme. Les recherches portaient seulement sur l'invisibilité, mais par inadvertance, par sérendipité, dirait-on finalement aujourd'hui, les scientifiques américains auraient découvert la téléportation.
Malheureusement, dans un grand éclair bleu.
Dans un grand éclair bleu.
Ça me fait beaucoup rire.
Malheureusement, les effets secondaires étaient nombreux parmi les marins à bord. Des marins sont tombés gravement malades, certains vomissaient partout, d'autres avaient complètement disparu, d'autres encore sont devenus complètement fous ou ont développé des symptômes de schizophrénie, mais surtout, et c'est ça qui fait le plus peur, 5 membres d'équipage avaient fusionné avec le bateau. C'est-à-dire qu'on pouvait voir si on avait pu se balader sur l'USS Eldridge, des bouts de corps, des têtes, des passants de la coque du bateau. Certains avaient survécu à la fusion et hurlaient de douleur. Ils ont hurlé de douleur pendant plusieurs minutes avant de finalement, évidemment, mourir, parce que bon, fusionner avec un bateau n'est pas une opération recommandée pour la santé, hein, d'ailleurs. On pourrait dire fusionner tue, évidemment. En 1943, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et la légende veut que l'on ait fait disparaître le bateau en prétextant un départ du navire pour des missions et que ceux qui avaient des symptômes, disons, les moins graves, et subit tout simplement un lavage de cerveau pour leur faire oublier l'enfer qu'ils avaient vécu et tout ce qu'ils avaient vu. Cependant, un témoin aurait échappé à la surveillance des militaires. Cet homme s'appelle Carlos Miguel Allende et va contacter Maurice Ketchum Jessup pour lui faire part de ce qu'il a vu. Ce qu'il est important de connaître à propos de Maurice Jessup, c'est qu'il a fait des études scientifiques. C'est un universitaire relativement respecté. Puis on ne sait trop comment, un jour, il va mener des études d'anthropologie et il sera un des premiers à soutenir que certaines des constructions anciennes d'Amérique latine, et notamment les constructions mayas, étaient en fait le résultat, non pas de personnes qui ont travaillé des centaines d'heures et pour la plupart des esclaves, mais le résultat d'extraterrestres. Autant te dire qu'à ce moment-là, sa street cred chez les scientifiques est tombée d'un coup. Jessup va se retrouver totalement isolé dans son domaine et sera de moins en moins pris au sérieux, alors que lui, les thèses sur les extraterrestres, il les prenait très au sérieux. Entre 1955 et 1957, il va écrire 4 livres, tous sur les ovnis, ce qui va attirer l'attention de Carlos Allende, qui prendra contact avec lui plus de 10 ans après les soi-disant tests, pour lui révéler qu'il avait été présent, donc lors de ce qu'il appelle l'expérimentation de Philadelphie.
C'était un bon business pour ce monsieur Kitchum, parce qu'on est quand même en pleine frénésie OVNI aux États-Unis à ce moment-là.
Exactement.
Le monsieur sort 4 livres en l'espace de un peu plus de 2 ans.
C'est ça.
C'est plutôt pas mal pour ses finances, je pense.
Ouais, alors, eh ben figure-toi que pas tant que ça. Parce que du coup, comme il est déconsidéré par ses pairs, c'est pas non plus la joie de son côté.
Non, mais les complotistes achètent des livres, hein.
Oui, bah, oui, mais était-il présent à cette époque? Ils sont nouveaux. Ce sont des proto-complotistes à ce moment-là.
Oh, Roswell, et c'était bien 10 ans avant, je crois, non?
Ben, figure-toi que justement, ils n'étaient pas suffisamment nombreux, c'était à la même période que Roswell, en effet.
Ah, pas encore.
Et c'était pas encore la folie. Jessup était dans une mauvaise posture, en tous les cas scientifiquement parlant, et Allende, en fait, lui a offert, avec cette histoire de l'expérimentation de Philadelphie, il lui a offert une histoire parfaite sur laquelle s'appuyer et de la matière pour ses ouvrages. Ses bouquins sur les ovnis n'étaient pas pris au sérieux et il a reçu une sorte de soutien finalement de la part de Carlos Allende qui le contactait pour son expertise sur les UFO. Carlos pensait alors que Tesla et Neumann avaient été en contact avec des extraterrestres durant le projet Rimbaud grâce au canon électromagnétique, mais qu'ils l'avaient évidemment caché. Selon Allende, les personnes qui ont survécu à l'expérimentation de Philadelphie se mettent à disparaître sans explication. L'un d'entre eux, un père de famille, aurait traversé un mur et ne serait jamais réapparu alors qu'il était à table en famille. Un autre se serait même volatilisé lors d'une bagarre dans un bar. D'autres encore seraient victimes de ce qu'on appelle un deep freeze, donc un figement de longue haleine, hein, c'est du temps long. Un homme serait resté bloqué ainsi pendant 6 mois sans pouvoir bouger. Allende explique dans ses lettres, puisqu'il entretient une correspondance donc avec Maurice, que le gouvernement aurait alors dépensé des millions de dollars en recherche pour le sortir de son état d'immobilité, mais il était trop tard. Et une fois qu'il a défigé, il était devenu fou. Se rendant compte finalement qu'Allende était lui aussi peut-être un peu fou, la correspondance ne sera pas plus suivie par Jessup jusqu'à ce qu'il soit appelé par l'Office National de Recherche Navale à Washington, et ça c'est vrai, en tant qu'expert en OVNI, puisque ces 4 bouquins vont finalement intéresser quelqu'un, et c'est ce qui va en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui va légitimer un petit peu cette affaire. Jessup va être contacté par l'US Navy Sidney Sherby, intéressé par les ovnis, et se rendre compte, lui, qu'il y a des enquêtes menées en interne dans la Navy sur ce genre de problème, ou du moins que certains haut gradés en fait s'intéressent à ces questions-là, et en plus... Qu'est-ce qu'il va trouver sur la table de ce monsieur? Eh bien, il va trouver ses propres bouquins. Mais cela ne suffira pas. Maurice Ketchum Jessup, qui va être au plus bas de sa carrière scientifique et qui va, en plus, qui plus est, se retrouver être victime de 2 accidents de voiture assez rapprochés, dont il va avoir du mal à se remettre à la fois physiquement mais aussi psychologiquement, va
c'est encore
en
un coup de la CIA, ça.
C'est
encore un coup de la CIA, ça.
C'est encore un coup de la... Bah, il faut le faire taire, à un moment
donné.
Ah
oui, bien sûr. Le gouvernement doit le faire taire.
Et probablement que...
les hommes en noir sont intervenus chez lui.
Et probablement que sa femme était aussi contrôlée par la CIA, puisqu'elle va demander le divorce peu de temps après.
Ça aussi, c'est classique de la CIA,
c'est
ça.
C'est classique, ouais. C'est une technique de manipulation mentale. Il contacte en avril 1959 le docteur Manson Valentine, lui annonçant qu'il a découvert des informations fondamentales sur l'expérience de Philadelphie. Vous vous en doutez évidemment, le 20 avril 1959, Maurice Ketchum Jessup sera retrouvé mort en Floride dans sa voiture, un tuyau reliant son pot d'échappement à une fenêtre entrouverte. L'enquête conclura à un évident suicide, sauf évidemment pour les complotistes, hein, qui voient ici une cause mystérieuse et un attentat du gouvernement américain pour garder ses secrets, là où personnellement je vois tout simplement du désespoir et des gaz toxiques. Après cela, l'expérience de Philadelphie et les discours qui l'entourent ne vont finalement vivre que par le biais des complotistes qui vont utiliser les lettres d'Allende et les tentatives de découverte d'extraterrestres de Jessup pour en faire une véritable théorie du complot. La vérité, c'est que l'armée américaine travaillait en fait vraiment sur des techniques de camouflage pour faire disparaître ces avions et ces bateaux, mais les faire disparaître simplement des radars et non pas les faire disparaître de la vue.
Donc c'est pas du tout des techniques pour rendre invisible, ce sont plutôt des techniques qui vont être appelées par la suite les techniques furtives. Et aucun bateau ne s'est évidemment jamais téléporté à Philadelphie ni à Norfolk en fusionnant avec son équipage. Cette histoire, c'est en fait un empilement de rumeurs et de théories très 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 faciles à débunker, ce qui sera fait au fil des années, mais qui nous donne une histoire plutôt rigolote. Hein, et pour vous donner un petit exemple d'à quel point cette histoire est facile à débunker, et ben en fait, Carlos Allende ne s'appelait pas en fait Carlos Allende, il s'appelait Carl Allen. Il avait hispanisé son nom pour qu'on ne le retrouve pas. Et il va carrément avouer lui-même qu'il a inventé une sacrée partie de l'histoire. Une histoire précurseuse, hein, puisque de beaucoup d'autres dans la suite, notamment sur les extraterrestres, et qui va donner notamment un film de science-fiction sorti en 1984 qui s'intitule complètement sobrement, The Philadelphia Experiment, que je n'ai pas encore vu à titre personnel, mais sur lequel je vais me jeter. Et film, et je terminerai là-dessus, qui va miraculeusement rappeler, en 1988, à Al Bielek, dont je vous ai parlé au début, qui faisait, selon lui, partie de l'expérimentation, et ben tenez-vous bien, c'est le film, en fait, qui va lui faire dire qu'il faisait partie de l'expérimentation. Quand il va voir le film en 88, il va se rappeler qu'on lui a lavé le cerveau, et qu'en fait, il était là, au moment des faits, et qu'il a tout vu.
Comme c'est commode.
Comme c'est commode, exactement. Si tu veux mon avis, le niveau de mystère est très 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 peu élevé.
Évidemment.
Est au niveau zéro du mystère, mais c'est une histoire qui est quand même sacrément rigolote.
Ah oui, d'ailleurs, méfiez-vous, parce qu'on parle de cette expérience-là. Sur Internet, il y a pas mal de photos qui tournent. Évidemment, ce sont des Photoshop plus ou moins grossiers. Il y en a certains qui sont pas trop mal faits. Il y en a certains où les gens ne savent vraiment pas servir de Photoshop. mais ouais, voilà, si vous tombez sur des photos, sur des compilations vidéo qui vous montrent des photos de l'expérience de Philadelphie, bah, sachez que ce sont tous des fakes, puisque évidemment, il ne s'est rien passé. Donc voilà, je pense qu'on peut classer l'affaire.
Exactement, on peut classer l'affaire.
Danse avec la mort. Il y a 500 ans, les rues de Strasbourg furent le théâtre d'un sinistre spectacle. Des centaines de personnes se mirent à danser frénétiquement, comme possédées, jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Une véritable épidémie dansante, donc, qui garde encore aujourd'hui son aura terrifiante. Alors l'année dernière, j'avais parlé de mon voyage à Strasbourg, où je disais que j'avais très bien mangé, et beaucoup d'auditeurs en fait m'avaient parlé de l'épidémie de danse qui a frappé la ville en 1518. En fait, moi j'avais jamais entendu parler de cette histoire. C'est vrai que quand je m'étais renseigné sur Strasbourg, à la base j'avais vu des histoires de fantômes, et c'est ça que j'avais raconté dans le Bureau des Mystères, mais je ne connaissais pas la manie dansante, et j'ai trouvé cette histoire totalement fascinante, et je m'étais dit que j'en parlerais un jour dans le Bureau des Mystères. Puis après, voilà, tu me connais, Charles, j'ai pensé à autre chose, j'ai oublié, j'ai fait passer d'autres histoires avant.
Ça arrive même au meilleur, tu sais.
Classique Mathias, voilà, ça m'arrive régulièrement, j'oublie des choses. Mais j'ai récemment reçu d'autres messages me demandant si j'allais enfin la raconter un jour. Eh bien, ce jour, chers auditeurs, est enfin arrivé. Je préviens avant de commencer, car je sais que certains Strasbourgeois risquent de tiquer sur certains passages. La première partie de mon récit va se baser principalement sur un livre, The Dancing Plague, qui a été écrit par l'historien de la médecine John Waller en 2009. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ce sinistre jour de 1518. Le 14 juillet 1518, une femme se met soudainement à danser seule dans la rue. Il n'y a pourtant pas de musique, mais la femme virevolte, se déhanche frénétiquement et on continue. Les minutes passent, puis les heures, puis les jours. La fatigue s'accumule, ses pieds sont en sang, mais la danseuse ne s'arrête pas. Pendant 6 jours et 6 nuits, elle danse. Et ce qui inquiète les autorités de Strasbourg, c'est qu'elle n'est pas seule. Ceux qui croisent la femme qui danse sont attirés, ils n'arrivent pas à résister. Malgré eux, leurs membres se mettent à bouger, et ils entrent, à leur tour, dans la danse. 25 juillet, au bout de seulement 11 jours, ils sont déjà 50. Bientôt, ils seront plus de 400. La municipalité décide de soigner le mal par le mal et encourage, dans un premier temps, cette inquiétante épidémie de danse. Elle engage des douzaines de musiciens, dresse des estrades et organise, sans le vouloir, un vaste bal macabre. Non seulement les danseurs continuent malgré l'épuisement, mais ils attirent de nouveaux Strasbourgeois qui viennent grossir leur rang. En réalisant leur erreur, les officiels font démonter les estrades et les musiciens, mais il est déjà trop tard. Des centaines de personnes sont en transe, et la mort les guette. Dans son livre, l'historien de la médecine John Waller raconte qu'il y a là des hommes, des femmes, des enfants. Tous ont, je cite, « le regard vague, le visage tourné vers le ciel, leurs bras et jambes animés de mouvements spasmodiques et fatigués. » Il décrit aussi leurs chemises, leurs jupes et bas, trempés de sueur, collés à leurs corps émaciés. Selon un témoin de l'époque, cité dans le livre, jusqu'à 15 danseurs auraient succombé chaque jour, terrassés par la manie dansante, victimes de déshydratation ou d'accidents cardiovasculaires. À l'époque, on ne parle pas de maladie cardiovasculaire, on parle plutôt d'une maladie, la danse de Saint-Guy. Alors pourquoi Saint-Guy ? Eh bien parce que dans la croyance populaire de l'époque, Saint-Guy est le saint qui punit par les chorées. Les chorées, ce sont les maladies de mouvements incontrôlés et qui guérit par la danse. Pour tenter de trouver une solution spirituelle à l'épidémie, les malades de Strasbourg ont été envoyés au sanctuaire de Saint-Guy du Hollenstein, près de Saverne. Et après avoir assisté à 3 grandes messes en l'honneur de Saint-Guy, tous seraient revenus guéris. Alors c'est ainsi qu'on entend souvent parler de l'épidémie de danse de Strasbourg, on entend une histoire effrayante avec des danseurs qui meurent d'épuisement et qui finissent par obtenir une guérison miraculeuse en priant un saint, mais la réalité est plutôt différente. À l'occasion des 500 ans de la maladie dansante de Strasbourg, une grande exposition, qui s'appelle 1518 La fièvre de la danse, est organisée jusqu'à février au musée de l'œuvre Notre-Dame, à Strasbourg évidemment, et grâce aux travaux d'historiens, elle permet de démêler le vrai du faux et d'explorer les hypothèses qui pourraient expliquer ce qui est quand même un grand mystère français. Alors il y a Rue 89 Strasbourg qui a publié un article très intéressant qui nous montre que la version racontée par John Waller n'est pas tout à fait exacte et quelque peu romancée. Et comme vous allez le voir, même sans les grands effets dramatiques de John Waller, l'affaire reste quand même extrêmement mystérieuse. D'abord, une chose est sûre, il y a bien eu une épidémie de danse à Strasbourg en juillet 1518. Les archives du XVIe siècle, qui sont exposées actuellement à Strasbourg, le montrent très bien. Il y a des registres, des lettres, des factures, des rapports. L'imprimerie venait de se développer en fait, donc c'est la première affaire de ce type-là à être aussi bien documentée en France. Une vingtaine d'affaires similaires ont été rapportées entre 1200 et 1600. Il y a aussi une variante, le tarantisme en Italie, parce qu'ils dansaient la tarentelle. Mais Strasbourg reste sans aucun doute...
Les danses varient suivant les pays.
Oui. Tout à fait. Ah là, en l'occurrence, c'était très répandu la tarentelle, donc on a appelé ça le tarentisme. Mais ouais, c'est exactement la même chose.
Je suis curieux de savoir dans quel pays on dansait la tectonique.
Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a eu une épidémie dansante de tectonique ? Est-ce que des tectonique killers sont morts ?
J'ai connu ça.
Ça, tu penses qu'ils faisaient leur mouvement avec leurs poignets au-dessus de leur tête, faisant mine de se recoiffer, et ils sont soudainement morts. C'était bizarre. Ça faisait des grandes étendues fluo sur le sol des villes. Mais revenons à Strasbourg. Strasbourg qui reste sans aucun doute l'affaire la plus emblématique grâce à la foule d'informations qu'on a sur le déroulé des événements. Les arrêtés municipaux et les lettres du magistrat de Strasbourg décrivent notamment les débuts de l'épidémie. Dès le 15 juillet 1518, le magistrat de Strasbourg et le greffier de Strasbourg, Sébastien Brandt, rapportent qu'une femme atteinte du mal de Saint-Guy ne peut s'arrêter de danser frénétiquement dans les rues et contamine plusieurs personnes. Les malades dansent jour et nuit, mais il est difficile de connaître à ce moment-là le nombre exact. Alors les chroniques de l'époque, qui ne sont pas déjà les sources les plus fiables du monde, hein, on sait que les chroniques peuvent être modifiées et sont souvent racontées parfois plusieurs siècles après, hein. Donc c'est compliqué de croire sur parole les chroniques, mais ces chroniques-là évoquent environ 200 personnes. Alors John Waller en évoque 400 dans son livre, mais il se base sur des chroniques écrites bien après, donc sans doute très exagérées. Mais c'est déjà moins que ce qu'a écrit l'écrivain Jean Tellet. Puisqu'en 2018, Jean Tellet a écrit un roman historique qui donne une version très remaniée des événements, dans lequel il évoque 2000 danseurs devenus fous. Alors le problème, c'est que certaines personnes ont cru qu'il énonçait là une vérité historique. C'est un roman historique, mais bon, comme il se base sur beaucoup de faits réels, les gens ont pensé qu'il y avait vraiment eu 2000 danseurs fous. À Strasbourg, non, pas du tout. Probablement plutôt de l'ordre de 200, il y en avait donc 10 fois moins. Mais quand même, 200 personnes qui dansent frénétiquement dans la rue sans pouvoir s'arrêter, ça reste quand même plutôt effrayant. Alors pour combattre le mal de Saint-Guy, une commission spéciale a été créée avec des religieux et des médecins. Hein. C'était comme ça à l'époque, il y avait les médecins et les religieux qui rentraient dans le truc. Les médecins ont assuré qu'il s'agissait d'une maladie naturelle qui venait de la chaleur de l'été et de, je cite, la conjoncture astrale. Ah oui, on n'était pas encore
les
très
médecins,
au point.
C'est marrant.
On n'est pas encore très au point en 1518 hein, sur la médecine. Mais
alors que
ils
la
ont
religion, ils vont plutôt dire que ça vient de l'alimentation et qu'il y a un truc très...
Eh ben écoute, on n'est pas très loin. En tout cas, les médecins, eux, ont dit « Donnez-leur une petite décoction d'orge et du pain, et puis voilà, ça devrait aller. Jouez-leur un petit peu de musique, ça va passer. » Mais attention, contrairement à ce qu'a écrit John Waller, si, effectivement, on a joué de la musique, les malades n'ont pas été placés sur des estrades avec des musiciens. Hein, ces estrades-là n'ont jamais existé. Au contraire, ils ont été mis en quarantaine, dans des pièces fermées pour éviter les contaminations, et on leur a quand même fourni des danseurs pour, je cite, les encourager. Mais aucun rapport ne dit si ça a aidé ou non, a priori c'était quand même plutôt non. Évidemment, la solution miracle des messes en l'honneur de Saint-Guy n'est pas tout à fait vraie. Le conseil de Strasbourg a bien envoyé les premiers malades par convoi au sanctuaire de Saint-Guy, et ce dès le 23 juillet, il y a des factures qui le prouvent. Alors voilà comment ça se passait, les malades sont répartis, je cite évidemment les documents officiels. Les malades sont répartis dans des voitures attelées et doivent rejoindre des prêtres qui leur chantent trois grands messes. Ils doivent ensuite faire le tour d'un hôtel et donner l'argent de l'aumône à la quête. Récupère un petit peu d'argent au passage. Deux jours seulement après ce pèlerinage, une lettre du magistrat de Strasbourg affirme que l'épidémie, je cite, « touche à sa fin ». Mais là encore, ce n'est pas tout à fait exact, puisque le 2 août 1518, un arrêt de la ville met en place une interdiction des danses publiques. Et le 11 août, une ordonnance du magistrat de Strasbourg rappelle que la maladie est à nouveau apparue. En fait, la maladie aurait sans doute en réalité duré tout l'été avant que le calme ne revienne progressivement dans la ville, et le bilan, il est évidemment beaucoup moins lourd que ce à quoi on pense, hein. On n'est pas sur les 15 morts par jour qui étaient évoqués dans le livre de John Waller. En fait, les registres ne mentionnent aucune personne morte à la suite de l'épidémie de danse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, mais en tout cas, il n'y en a pas dans les registres. Quant aux malades, seuls 5 cas ont été documentés, car des familles ont dû témoigner pour obtenir une aide financière, donc on a ces documents-là. Et cette histoire de personnes mortes durant l'épidémie de danse serait en fait apparue dans une chronique du XVIIe siècle, dont s'est servi John Waller pour son livre. Mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, il faut faire très attention, il faut être extrêmement prudent avec ce genre de sources. Alors l'historienne Elisabeth Clemens, qui est maître de conférence à l'Institut d'Histoire d'Alsace, une personne qui connaît son sujet, a travaillé justement sur l'exposition qui est à Strasbourg consacrée à l'épidémie de danse. Et pour elle, il vaut mieux évidemment se fier aux documents officiels et laisser de côté toutes ces chroniques qui ont été écrites des décennies, voire des siècles après les faits, et qui ont tendance à modifier la réalité. Donc on ne peut qu'abonder dans son sens, évidemment. Hein. On l'a déjà constaté ici avec l'affaire du barbier que j'avais raconté, le barbier tueur de Paris, qui a été largement romancé avec le temps et au fil des chroniques. Donc tout ça étant précisé, il faut quand même répondre à une question. Qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Pourquoi plus de 200 personnes se sont soudainement mises à danser sans s'arrêter? Eh bien, c'est là que le mystère est encore présent. Plusieurs théories ont été avancées. Alors, comme pour Pont-Saint-Esprit, je pense que tu pensais à celle de Pont-Saint-Esprit, n'est-ce pas?
Ah non, l'ergotisme. Je pensais à Jacques Lang qui avait voyagé dans le temps et qui avait inventé la fête de la musique beaucoup plus tôt. Mais
exactement, la technoparade. Non, alors évidemment, la première, c'est l'ergotisme. Hein. On en avait parlé pour Pont-Saint-Esprit. Ouais. C'est l'empoisonnement par du seigle qui est contaminé par une mycotoxine. Alors, a priori, non. Elisabeth Clemens a expliqué à Rue 89 qu'un hôpital spécialisé existait déjà à Strasbourg à l'époque et qui aurait pu traiter les malades sans trop de problèmes. Et en plus, les symptômes de l'ergotisme, même si ça ressemble plus à des contractions musculaires, ça ressemble pas vraiment à une danse, donc c'est pas tout à fait ça. La principale piste, ça reste celle de l'hystérie collective. Saint-Guy était très présent dans la culture populaire à l'époque, c'était une superstition très très ancrée à Strasbourg, et si on ajoute un besoin à ça, qui est sans doute effectivement dû aux chaleurs de l'été, de défoulement collectif en quelque sorte, ça aurait pu donner cette manie dansante. Alors ça c'est la théorie de John Waller, ici c'est pas toujours le meilleur historien comme on l'a vu, son analyse de la situation est quand même assez intéressante, je trouve que c'est une théorie qui se tient. Ce qu'il explique dans son livre, c'est que, je cite, « les phénomènes de transe sont plus susceptibles de survenir chez des individus vulnérables sur le plan psychologique et qui croient au châtiment divin ». Justement, ces deux conditions-là étaient réunies à Strasbourg, puisque Le Monde, qui a aussi publié un article sur la manie dansante, rappelle que la ville avait été frappée par une succession inhabituelle d'épidémies et de famines à l'époque, et que ses habitants croyaient vraiment à Saint-Guy. Alors, justement, dans cet article du Monde, il y a un pédopsychiatre et chercheur, Bruno Falissard, qui est cité, et qui appuie cette hypothèse-là. Lui, il dit que la description clinique évoque une hystérie au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire voilà, vraiment une hystérie, avec des symptômes de conversion, ce qui existe parce que ces comportements-là peuvent être contagieux. Alors, les hystériques auraient ensuite formé un groupe, avec les conséquences que ça implique, hein, parce que, comme le précise Bruno Falissard, le groupe peut devenir à ce moment-là une entité à part entière, avec une synchronisation des comportements, donc ça colle plutôt à Strasbourg, où tout le monde se met à danser d'un coup dans ce groupe-là. Alors, ceci étant dit, est-ce que l'affaire est classée? En fait, pas vraiment. Malgré tout ça, ça reste des hypothèses. En fait, il y a toujours un mystère sur ce qui s'est passé à Strasbourg à cette époque-là. En fait, même l'exposition qui est consacrée à la manie dansante ne donne pas d'explication définitive. Elle explore plusieurs hypothèses, elle raconte ce qui s'est passé, elle donne tous les documents dont j'ai parlé ici. Mais bon, l'hypothèse de l'hystérie collective reste plausible et elle fait plutôt consensus auprès des historiens et des psychiatres. Mais ce n'est pas entièrement classé pour autant. Ça n'a pas été statué pour le moment.
D'accord. J'avais entendu une autre une hypothèse alors qui se rapproche notamment de l'idée de famine. Et je sais plus où j'avais lu ça, mais qui expliquait que du coup, ils se nourrissaient, les gens, la population, se nourrissaient avec absolument tout et n'importe quoi. Et qu'ils allaient même jusqu'à manger des excréments, ce qui aurait pu entraîner une forme de folie, en fait, au bout d'un moment. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que t'as
croisé. Alors, je suis pas tombé là-dessus sur les différents articles que j'ai lus, ni sur le site officiel du musée de l'œuvre Notre-Dame. Donc, peut-être que c'est évoqué, que c'est évoqué dans l'exposition. D'ailleurs, j'ai bien envie de la voir, l'exposition. Si vous habitez, vous, à Strasbourg ou dans les environs, ou si vous allez en vacances bientôt à Strasbourg, deux choses à faire. Allez manger au restaurant en crocodile que j'ai beaucoup aimé. Et deuxièmement, allez voir l'exposition au musée de l'œuvre Notre-Dame, quoi. Non, je parle du crocodile parce que c'est un très bon restaurant. Et c'est un ancien candidat de Top Chef. Je sais pas si tu te souviens, Henri Michel en avait parlé dans sa saison de spoiler arrière. C'est le restaurant de Franck Pelux.
Alors, tu le sais bien, la seule fois où j'ai regardé Top Chef, c'était avec toi. Je n'ai jamais regardé Top Chef sinon. Donc, du coup, je sais absolument pas de quoi tu parles en ce moment.
Bah écoute, quand on ira à Strasbourg voir cette exposition,
ouais,
je t'offrirai un bon dîner.
Ah, c'est gentil.
Ah bah voilà. Bon, le degré de mystère, tu l'auras compris, reste pour moi plutôt élevé parce qu'en fait, j'ai toujours du mal à comprendre ce qui s'est passé avec le patient zéro, en fait. Comment, à un moment, une femme s'est mise à faire ça d'un coup? Et ensuite, comment ça s'est propagé de 1 à 200 personnes? 200 personnes, c'est quand même balèze, hein. Donc voilà, et surtout, pourquoi ça s'est arrêté et comment? Tout ça, on sait pas. On sait juste que ça s'est arrêté à la fin de l'été.
Surtout avec quelles séquelles, parce qu'il me semble avoir quand même entendu parler de gens qui avaient les pieds complètement écorchés, qui avaient limite les os apparents.
Alors ça, bah, visiblement, c'est une invention des chroniques.
Une invention, d'accord.
Il n'y a pas eu de cas comme ça, il y a eu quelques blessés, effectivement, mais pas à ce point-là, visiblement. Donc non, c'était plus des symptômes d'épuisement qui ont été notés chez les personnes qui ont dû déposer des dossiers pour avoir des indemnités.
D'accord.
Donc non, c'est plus ça. C'est des accidents ou de l'épuisement, de la déshydratation. Mais il n'y a pas eu de cas de personnes avec les pieds écorchés jusqu'au sang où on voyait les os. Ça, c'est complètement
c'est
une invention.
D'accord, très bien. Et du coup, tu classes ou pas?
Bah, pour le moment, j'ai envie de classer parce que je ne sais pas si on en saura beaucoup plus à l'avenir.
Ouais, ouais, c'est vrai. On peut archiver.
On peut archiver.
On archive.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée, merci à vous de l'avoir écouté.
Le Bureau des Mystères est un podcast de Riviera Ferraille et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, notamment notre compte @BDM, le podcast, notre page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez nous laisser des avis positifs, s'il vous plaît, sur iTunes. Et puis voilà, vous pouvez...
On n'a même pas besoin de leur demander positif, ils sont adorables, nos auditeurs.
Non, c'est vrai. D'ailleurs, on en a reçu et on est très très contents.
Sachez qu'à chaque fois qu'on en voit un, ça nous fait sourire. On est heureux.
Et un petit chaton est heureux quelque part dans le monde.
Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et encore plus d'amour. Et d'ici là, dansez avec modération.